RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Jérôme Chapuis jusqu'à 9h30.
Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Comme chaque mercredi, nous allons passer en revue les sorties cinéma du jour avec vous Stéphane, mais avant tout un coup d'œil aux résultats du box-office des 7 jours écoulés. Dites-nous ce qui a marché ou pas.
Alors, grâce au dernier jour de la fête du cinéma, c'était mercredi dernier, et puis au mauvais temps de ce week-end sur la moitié nord, eh bien les salles ont retrouvé leurs spectateurs. Près de 900 000 entrées pour Transformers 5. Baywatch, alerte à Malibu, résiste bien en deuxième semaine et passe largement le cap du million. Tout comme Tom Cruise avec La Momie, mais lui c'est en 3 semaines. Et puis Wonder Woman atteint le 1 850 000 en un mois. Pour les nouveautés, notez le très joli score du formidable documentaire Visage, Village, d'Agnès Varda et JR, déjà 75 000 entrées pour ce genre de film, c'est pas mal du tout. Et puis, parti doucement, Ce qui nous lie de Cédric Clapiche, et j'en suis ravi, progresse cette semaine et atteint désormais les 550 000 entrées.
On en vient donc aux nouveautés à l'écran ce 5 juillet, Stéphane, et pour commencer, la grosse sortie du jour, Moi, moche et méchant, 3.
On en a parlé lundi, je vous redis tout le bien que je pense de ce film d'animation qui prolonge avec intelligence, vivacité, originalité des aventures entamées en 2010. On retrouve donc dans ce troisième volet la famille recomposée de Gru, ex-vilain devenu gentil, père adoptif de 3 fillettes mariées à Lucie, une espionne. Virés tous les deux des services secrets au début du film, ils vont faire la connaissance de Drew, le frère jumeau de Gru, et affronter, oui, ils sont forts sur les prénoms, et affronter un vrai méchant pour le coup qui s'appelle Balthazar, Bart, gravement scotché dans les années 80. Extrait.
Salut Gru! Comment se passe la transition? Tu sais ton passage de pire méchant du monde à pire agent du monde?
Oh, hilarant! Tu devrais passer à la télé.
Ah, c'est vrai? C'était ton métier? Avant que tu sois viré. Et ça? Combat de danse!
Alors, ce qui est drôle, comme le film est très scotché années 80, c'est que David Marseille qui double le méchant. On entend singe, tous les tics vocaux de Michael Jackson dans cette scène qui est vraiment épatante. Et côté musique, on a parlé des tubes. Et ben, voici un autre. Jump, le tube de Van Halen 1984, qui rythme lui aussi Moi, moche et méchant 3 de Pierre Coffin et Kyle Balda, avec les voix de Gad et Ariel Mallet, David Marseille, je vous l'ai dit, mais aussi Audrey Lamy, sans oublier évidemment nos mignons qui ponctuent de leur crétinerie géniale sur le troisième volet. Et je rassure leurs fans, ils auront droit à la suite de leur propre film qui était sorti en 2015, qui était assez moyen. Espérons que le 2 sera mieux.
Du côté des sorties françaises, Stéphane, vous avez beaucoup aimé Les Hommes du Feu, le nouveau film de Pierre Jolivet.
Très beau, très juste portrait du quotidien des sapeurs-pompiers. L'histoire se déroule dans une caserne du Sud-Est où arrive une jeune femme, nouvelle recrue, découvrant un monde d'hommes, mais aussi des conditions de boulot rudes, entre le combat contre les incendies et les interventions dans des quartiers difficiles, les intrigues de vestiaire, une vie personnelle difficilement compatible avec une disponibilité quasi permanente ou encore des contingences sociales qui font que certaines casernes sont menacées de fermeture ou de regroupement. Un thème qui rejoint le cinéma de Pierre Jolivet, observateur de son époque, déjà dans des films comme Ma petite entreprise, Fred ou Jamais de la vie.
Avec le resserrement des budgets des collectivités et locales, les arbitrages financiers se font aussi sur les pompiers. C'est normal, et ça manque d'argent de partout. D'ailleurs, dans la scène de nuit de la manif dans la cité, c'est notre propre camion qui est tombé en panne. J'ai failli foutre en l'air toute la séquence, qu'on n'a qu'un seul camion à la caserne. Quand je dis notre camion, parce que c'est devenu ma caserne, j'ai passé 3 mois. Et c'est vrai que je les entendais dire depuis 2 mois, putain, quand est-ce qu'il nous le change ce camion, il va nous laisser tomber un jour et on en aura vraiment besoin. Et forcément, le camion, il est bien tout peint, il est tout clean, sauf qu'à l'intérieur, il a 30 ans, quoi. Donc, c'est des questions qui se posent en permanence, des arbitrages, est-ce qu'on rachète un nouveau camion, combien ça coûte, voilà. Et évidemment, dans mon cinéma, c'est vrai que ça collait bien parce que ils sont dans la réalité. C'est pas des intellectuels, les pompiers. J'ai pas voulu faire un film qui psychologise. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire, point à la ligne. Simplement, dans la vie de tous les jours, c'est des êtres imparfaits, qui ont des failles, et c'est ça que je voulais montrer.
Et puis l'autre intérêt de ces Hommes du Feu, c'est la fascination que nous éprouvons tous pour le feu. L'immense majorité admire sa beauté. Une infime minorité, heureusement, en fait une arme de destruction, ravageant terre, forêt, maison, blessant ou tuant les êtres humains. Et bien, face à ce péril, les pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, filmés donc dans le film par un Pierre Jolivet, lui aussi spectateur des flammes.
Dans la caserne où j'écrivais le film, je suis resté une semaine avec eux, vraiment pour vivre les choses avec eux, et j'ai eu la chance qu'il y ait un feu. Et donc, je les ai vus partir au feu, j'ai vu cette d'exaltation, j'ai vu cette montée d'adrénaline. Les pompiers, quand même, les héros qu'ils sont, leur adversaire principal et le plus chic, c'est le feu. Ça, c'est le vrai combat, quoi. Et après, en parlant avec eux, le soir, ils m'ont montré plein de petites vidéos qu'ils avaient faites. C'était une caserne dans le sud, dans les grands feux. Des images incroyables, dans les flammes. Et je dis, mais c'est ça que je veux, moi. C'est ça que je veux. Je veux pas le gros truc en numérique à l'américaine où on rajoute des effets spéciaux dans tous les sens. Non, non, rien qu'à regarder le truc, j'étais en sueur à regarder les images qu'ils me montraient. Donc évidemment, là, ça a été compliqué parce qu'il a fallu qu'on trouve des hectares à enflammer, qu'on puisse sécuriser et qu'on fasse monter les flammes à 10 mètres. Et c'est des vraies flammes, c'est du vrai feu. Et là, on a eu chaud, chaud, chaud. Mais cette sensation de chaleur que vous avez, c'est celle qu'ils ont dès qu'ils vont au feu. Quand il approche et quand on est dedans, c'est d'une violence, mais incroyable. Sauf que c'est beau, ça sent bon, c'est un beau son, c'est ça, c'est la beauté du diable, le feu. Et je voulais avoir cette sensation.
Et il l'a eu. Pierre Jolivet, réalisateur des Hommes du Feu avec Roche Dizem, Émilie Dequen et un casting formidable d'ailleurs du premier au tout petit rôle. Je vous signale aussi la sortie de Embrasse-moi par Océane Rosemary qui adapte son spectacle La Lesbienne Invisible qui avait triomphé partout en France en 2009 et 2010. Malheureusement, quelques poncifs, des clichés et puis une mise en scène assez plan-plan rendent commune l'histoire de cette jeune femme tentant de conquérir celle qu'elle croit enfin être la femme de sa vie. Joli casting pourtant. Océane Rosemary Marie elle-même, mais aussi Alice Paul ou encore Grégory Montel.
On termine, Stéphane, par un cours d'histoire en forme de film, Le Dernier Vice-Roi des Indes.
1h35 pour suivre les premiers pas de la nation indienne auprès de Lord Mountbatten, chargé en 47 par la couronne britannique de préparer le départ du pays colonisateur après 300 ans de présence britannique. Transition compliquée par les rivalités religieuses entre hindous et musulmans, habitée par la figure de Gandhi, qui conduira aussi à la création du Pakistan et au total à la mort 1 million de personnes. Alors c'est passionnant, joliment filmé et joué notamment par Gillian Anderson, rappelez-vous la lieutenant Scully de la série X-Files. Seul regret, la naissance de la République indienne aurait mérité une fresque ou une série d'ailleurs, pourquoi pas. Mm-hmm. Ben là ça va un petit peu vite, à force de raccourcis. Et puis je vous signale un formidable polar égyptien, ça s'appelle Le Caire Confidentiel, qui raconte comment on est à la veille de la révolution 2011. Un policier va être amené à enquêter sur le meurtre d'une jeune chanteuse dont l'assassin pourrait bien être un proche du président Moubarak. Une course contre la montre, l'appareil d'État et l'histoire commencent alors. C'est haletant, remarquablement mis en scène par Tariq Saleh. Et ça, c'est à voir.
Merci Stéphane Boutsock.